Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez 15h à Paris, 2h de moins en temps universel.
RFI Midi. Victorien Villaume.
Et on est ensemble pendant encore une demi-heure dans RFI Midi. Parmi les temps forts, notre invité sera le militant républicain Randy Yalloz, représentant des républicains overseas en France, qui est en direct de la convention de Milwaukee aux États-Unis après la tentative d'assassinat de Donald Trump. Cette convention a-t-elle une saveur particulière et Donald Trump est-il en partie responsable du climat de violence aux États-Unis? On lui posera cette question et bien d'autres. Dans le journal des Outre-mer, nous rejoindrons Odan Haji Ali. On parlera d'abord de la saison cyclonique dans les Caraïbes qui s'annonce plus intense que prévu.
Oui, après de nouvelles estimations, les spécialistes viennent de revoir leurs estimations à la hausse. Donc, et le passage précoce de Beryl, ouragan de catégorie 5, en a peut-être donné un avant-goût. Plus de détails à suivre, Victorien.
Merci, à tout à l'heure, Odan. Et d'abord, c'est le journal avec Gilles Moreau. Gilles, pour commencer, l'ouverture à Milwaukee de la convention du Parti républicain. J'en parlais à l'approche de la présidentielle américaine.
Et tous les regards sont tournés vers Donald Trump, sur le point d'être désigné officiellement après avoir échappé samedi à une tentative d'assassinat. Qu'il soit républicain ou démocrate, les responsables américains tentent d'apaiser un climat politique très tendu. Le président Biden appelle à faire baisser la température. Donald Trump lui demande que tout le monde soit uni. Mais dans le même temps, beaucoup dans le camp républicain accusent les démocrates d'avoir créé un climat de violence contre Donald Trump. Écoutez Nicolas Conquer, le représentant en France du Parti républicain, joint par Yelena Tomic.
Les propos des responsables démocrates, des gens de certains courants dans les médias, ont eu pour vocation de dépeindre Donald Trump comme étant quelqu'un d'absolument inhumain, de le déshumaniser et de placer une cible sur son visage. Donc derrière, qu'il y ait des actions qui soient menées à son encontre, c'est juste le juste retour d'avoir propagé ces accusations mensongères, ces insultes grossières et ce climat de violence à son encontre derrière Trump et l'ensemble des républicains dont je suis parti, qui partagent ces idées. Je pense que, comme tout le monde de sensé et qui a envie que le jeu démocratique puisse s'exercer de manière paisible, on en appelle à une désescalade de la violence et de dénoncer toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Je me félicite de tous ceux qui le dénoncent courageusement et je fustige ceux qui le font du bout des lèvres. Je pense que là, on a que vu qu'on pouvait basculer dans le chaos et que les propos de ceux qui propagent cette haine contre Donald Trump et contre le camp républicain peuvent aboutir à un assassinat d'un futur président et d'un candidat favori à l'élection présidentielle. Donc on en appelle à vraiment à ce que la démocratie puisse triompher et que le jeu des idées soit celui qui fasse l'objet de joutes et pas qu'on essaye de faire taire ses opposants avec des balles.
Nicolas Conquer, porte-parole en France du Parti républicain. Donald Trump est arrivé à Milwaukee où débute la convention du Parti républicain. L'ancien président doit être investi officiellement. Il doit aussi annoncer son colistier ou colistière. Donald Trump qui, samedi en Pennsylvanie, a eu la vie sauve miraculeusement. Blessé à l'oreille droite alors qu'une personne a été tuée et deux autres grièvement blessés. Antoine Gallen, bonjour.
Bonjour.
Devant la presse, le gouverneur de Pennsylvanie est revenu sur l'identité de la victime, l'homme qui a été tué.
Oui, il s'appelait Cory Comperatore, un fervent partisan de Donald Trump qui venait tout juste de fêter ses 50 ans. Celui qui travaillait dans une entreprise de fabrication de plastique était blanc, plutôt musclé, avec le crâne dégarni, un pompier volontaire passionné de pêche qui a aussi été administrateur de l'église de Cabo, une petite ville près de Sarver, là où il habitait avec sa famille. À la question « Qu'est-ce que vous avez de prévu pour ce week-end ?» posé vendredi par un compte qu'il suivait sur le réseau social X, Cory Comperatore avait répondu « Meeting de Trump ». C'est son dernier message sur la plateforme. Un meeting auquel ce père de deux enfants assistait en famille. Selon le gouverneur de Pennsylvanie, lorsque les détonations ont été entendues, il aurait plongé sur les sièges où se trouvaient ses proches pour les protéger et c'est là qu'il a été atteint d'une balle dans la tête. Sur Facebook, la sœur de la victime le décrit comme un héros qui a protégé ses filles.
Antoine Gallen, merci à vous. Dans le reste de l'actualité en Chine, coup d'envoi ce lundi du troisième plénum du Parti communiste. Grande réunion destinée à fixer le cap économique du pays et 4 jours pour assurer les investisseurs étrangers dans un contexte difficile. Les défis sont nombreux pour la deuxième économie mondiale. Consommation en berne, difficultés des secteurs industriels de pointe ou bien encore inégalités territoriales.
En Corée du Sud, haro sur les touristes.
Pour la première fois, la capitale Séoul instaure un couvre-feu anti-touriste dans l'un des quartiers historiques de la ville. La mesure vise à améliorer le quotidien des habitants de ce quartier appelé Bukchon. Ils se plaignent de la gêne occasionnée par les très nombreux visiteurs qui déambulent devant leurs portes. Reportage de notre correspondant Célio Fioretti.
Bukchon, un petit quartier du centre de Séoul, ses allées pavées, ses maisons traditionnelles en bois et ses 6 millions de touristes annuels. Des visiteurs devenus une nuisance pour les résidents de ce quartier qui ont demandé à la mairie de la capitale de limiter les allées et venues à Bukchon. Ce riverain nous explique.
À l'origine, Bukchon, c'est un quartier résidentiel, mais la ville de Séoul en a fait la promotion auprès des touristes et c'est devenu une attraction majeure de la ville, sans vraiment consulter les riverains. Aujourd'hui, les habitants se plaignent du bruit et des déchets laissés par les touristes. Et c'est pour ça qu'on a instauré un couvre-feu.
De 17h à 10h du matin, les non-riverains sont interdits d'accès au quartier afin que les habitants retrouvent le silence. De même, les bus et cars de tourisme vont progressivement être interdits de circulation dans la zone. Pour faire régner l'ordre, des fonctionnaires comme cette femme surveillent la zone et rappellent aux touristes de rester silencieux.
Après 17h, nous demandons à tous ceux qui n'habitent pas le quartier de partir. Si nous trouvons des personnes qui restent malgré l'interdiction, ils peuvent avoir une amende de 75 €.
Des mesures drastiques qui seront étudiées tout au long de l'année pour être ajustées, voire étendues au-delà de Bukchon. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
On vote aujourd'hui au Rwanda, élection présidentielle et législative, avec en position de grand favori le président Paul Kagame, en route vers un quatrième mandat, et son parti, le Front Patriotique Rwandais.
En France, Gilles, les négociations pour trouver un Premier ministre à gauche sont confrontées, je cite, à une situation de blocage.
Oui, c'est ce qu'a déclaré ce matin Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui accuse le Parti Socialiste. Ce blocage est dû, selon lui, à l'opposition systématique du PS. Il refuserait systématiquement toute autre proposition que les siennes. Manuel Bompard propose de se concentrer désormais sur l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale qui aura lieu jeudi. Il appelle le nouveau Front Populaire à s'accorder immédiatement sur une candidature commune.
Allez, football à présent avec ses deux grandes finales hier soir.
Oui, celle de l'Euro remportée par une brillante équipe d'Espagne. Espagne face à l'Angleterre. Quant à la finale de la Copa América, c'est l'Argentine qui a décroché la coupe aux dépens de la Colombie. Le score 1-0 après prolongation. Après la Copa América en 2021 et la Coupe du Monde en 2022, c'est un nouveau titre. Reportage à Buenos Aires de Théo Conscience.
Après 124 minutes de souffrance, c'est la libération et l'explosion de joie dans ce bar du centre de Buenos Aires. L'Argentine vient de remporter sa 16e Copa América.
Olé, olé,
Ivan, le visage barbouillé de bleu ciel et blanc, est aux anges.
C'est magnifique. C'est magnifique de voir un football comme celui-ci, de voir autant de finales, autant de victoires et autant d'harmonie dans le football. C'est sensationnel.
D'autant plus sensationnel que les Argentins ont eu peur, notamment à l'heure de jeu, quand Lionel Messi est sorti sur blessure avant de fondre en larmes sur le banc de touche. On a souffert, comme toujours, souffle Nacho. Je ne sais pas pourquoi on souffre autant à chaque fois. À côté de lui, Esteban préfère retenir le triplé historique que l'Albicéleste vient de réaliser.
Après avoir gagné la dernière Copa América, la Coupe du Monde, gagné de nouveau, je ne pourrais pas être plus heureux.
Une joie collective qu'Ivan, Nacho et Esteban vont partager comme à chaque fois avec des centaines de milliers d'Argentins au pied de l'obélisque dans le centre de la capitale argentine. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et le Hard Rock Stadium de Miami, où avait lieu cette finale, accueillera 7 rencontres de la prochaine Coupe du Monde de football. Le Mondial 2026, il faut le rappeler, sera co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.
Et les États-Unis, on s'y rend tout de suite, justement. Merci beaucoup, Gilles Moreau.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Aux États-Unis, des dizaines de milliers de partisans de Donald Trump réunis aujourd'hui pour la convention républicaine. Ça se passe à Milwaukee, au nord des États-Unis. Et nul doute que la tentative d'assassinat de Donald Trump samedi sera dans toutes les têtes. Milwaukee, c'est également là où l'on vous retrouve. David Thompson, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'arriver sur place, David, et ce matin dans la presse, Donald Trump a raconté pour la première fois comment il avait vécu cette tentative d'assassinat.
Oui, interview surréaliste accordée à bord de son avion personnel sur le tarmac de l'aéroport de Milwaukee à deux journaux conservateurs, le New York Post et le Washington Examiner. Donald Trump raconte comment il a vécu cette tentative d'assassinat. « Je ne devrais pas être là », dit-il. « Normalement, je devrais être mort. Le docteur n'avait jamais vu quelqu'un survivre à un tir d'AR-15. Il dit que c'est un miracle », poursuit Trump. L'ancien président explique que s'il n'avait pas tourné sa tête vers la droite, juste au moment, ce moment précis où le tireur l'a visé, ce n'est pas juste un morceau de son oreille qui aurait été arraché, mais il serait mort sur le coup. Par chance, ou grâce à Dieu, dit-il. Beaucoup de gens disent que c'est grâce à Dieu que je suis encore là, poursuit Trump, en expliquant qu'il voulait à ce moment-là continuer son discours. Mais le Secret Service, ses gardes du corps l'en ont empêché. Alors il a seulement pu faire ce geste désormais fameux, ce poing levé, le visage ensanglanté. Beaucoup de gens disent que c'est la photo la plus iconique qu'ils aient jamais vue, dit Trump. Ils ont raison. Et je ne suis pas mort. D'habitude, il faut une photo, il faut mourir pour une photo comme celle-ci.
David, est-ce que cet événement change tout pour lui, notamment son discours ?
Oui, cette tentative d'assassinat semble avoir tout changé pour Trump, à commencer effectivement par son discours qu'il va prononcer devant cette convention républicaine à Milwaukee. J'avais préparé un discours très dur, très bon, dit-il, sur l'administration corrompue et horrible, mais je l'ai jeté. Je veux essayer d'unifier notre pays, dit-il. Voilà des mots que l'on n'entend pas souvent dans la bouche de Donald Trump, régulièrement accusé, bien sûr, de diviser l'Amérique. Donald Trump veut donc œuvrer à son unité, mais je ne sais pas si c'est possible, dit-il. Les gens sont très divisés. Il explique que la campagne doit se poursuivre de façon plus apaisée. S'agit-il d'un nouveau Trump, plus apaisé dans le ton, voire dans le programme ? Pas plus de précision. Il assure en tout cas que Joe Biden pourrait ordonner au ministère de la Justice d'abandonner les poursuites contre lui. Or, aucun signe de cela pour l'instant, d'autant que ces inculpations fédérales ont été lancées par un procureur spécial indépendant.
Et puis David, l'un des moments forts de cette convention républicaine qui se tient sur plusieurs jours, ça devait être l'annonce du colistier de Donald Trump en cas de victoire, évidemment. Quand est-ce que cette annonce devrait être faite ? Est-ce que ce sera d'ici la fin de la convention ? On l'imagine en tout cas.
Trump pourrait même annoncer dès aujourd'hui le nom de son colistier. Et celui qui est sur toutes les lèvres ici, c'est celui de J.D. Vance, 39 ans, sénateur de l'Ohio, père de trois enfants métis. Jenny Vance s'est fait connaître du grand public en 2016, au moment de la sortie de son livre autobiographique « Illibelli Elegy », un best-seller, 3 millions d'exemplaires vendus, une adaptation Netflix. Vance y raconte son histoire, celle d'un gamin élevé dans l'Amérique des petits blancs déclassés dans les Appalaches, avec sa mère addict aux opioïdes. Mais lui, contrairement à ses copains de classe, parvient à s'en sortir, à entrer dans la prestigieuse université de Yale pour devenir avocat d'affaires et même investisseur dans l'industrie de la tech. Vance incarne aujourd'hui cette Amérique blanche de la Rust Belt comme l'Ohio, hein, l'un des états clés où va se jouer cette présidentielle. Il faut savoir qu'en 2016, il était très anti-Trump. Il est allé jusqu'à comparer Trump à Hitler, mais il s'est depuis rallié à lui pour obtenir son soutien et être élu sénateur de l'Ohio en 2023. Trump le considère aujourd'hui comme très loyal. Il est très proche de son fils, Donald Jr., et il l'a soutenu durant son procès en dénonçant une machination politique des démocrates. Une heure à peine après sa tentative d'assassinat, J.D. Vance n'a pas hésité à accuser Joe Biden d'en être responsable, en raison, écrit-il, de sa rhétorique visant à comparer Donald Trump à un fasciste.
David Thompson, envoyé spécial de RFI à Milwaukee, merci beaucoup David. Bonjour Randy Yalloz.
Bonjour, vous merci pour l'invitation.
Je vous en prie, j'allais justement vous remercier d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes. Vous êtes représentant des Républicains Overseas en France, vous êtes en direct de la convention de Milwaukee aux États-Unis. Ma première question, c'est la suivante. Cette convention, est-ce que c'est un moment particulièrement étrange, en tout cas avec une saveur particulière après l'assassinat, la tentative d'assassinat de Donald Trump samedi dernier ?
Il y a un sentiment par rapport à tous les participants, une question, il y a derrière la colère, la résilience, il y a aussi l'incompréhension, aussi et ça rappelle à chacun, et c'est vraiment question de la bouche de beaucoup de monde, c'est les paroles ont des conséquences. Donc aujourd'hui, et c'est ce que vous avez, votre intervenant vient de le dire, et ce que M. Trump essaie de faire, il essaie d'apaiser les rhétoriques entre les différentes personnes. Et il demande aussi qu'on arrête de diaboliser M. Trump. Et bien entendu, entre dire que M. Trump est un Hitler ou un dictateur, le passage à l'acte est très simple. Et c'est ça les clés de tout l'apaisement qu'on doit voir à partir de là. Les Américains, nous ici, tout le monde se parle. On est derrière M. Trump. On est aussi, pense beaucoup aux victimes, aux pompiers qui sont décédés, les deux personnes qui sont blessées. Il y a vraiment des lacunes aussi. On se pose beaucoup de questions sur les mesures de sécurité, les échecs. Ça, on viendra plus tard. Mais pour nous, on est là, on est plus fort, on est unis. Et c'est ça aussi, je pense que à partir de, et c'est ça ce qu'il faut dire, à partir d'un drame, il y a aussi peut-être
Randy,
une chose, c'est la réunion.
Randy Yalos, je veux unifier notre pays, c'est ce qu'a dit Donald Trump en chemin vers Milwaukee. Mais est-ce que Donald Trump n'est pas quelque part responsable, en partie en tout cas responsable du climat de violence qui règne aux États-Unis?
Pas du tout. Honnêtement, violence, c'est non, il est en réponse. Vous me demandez s'il était responsable, excuse-moi, c'est M. Trump qui faisait l'objet de violence et de rhétorique dès qu'il s'accompagne, avant même de devenir président en 2015-2016 pendant la campagne. Donc tout le monde l'a attaqué, l'a traité de raciste, antisémite, depuis les débuts.
Mais Donald Trump a également...
Il a renvoyé, c'est sûr, M. Trump ne se laisse pas faire. Je suis d'accord avec vous que M. Trump est aussi un combattant, il ne se laisse pas faire, mais aussi il sait comment, avec son rhétorique très fort, répondre à l'agressivité qu'il subit.
Donc vous acceptez une part de responsabilité, vous acceptez une part de responsabilité pour Donald Trump?
Non, la question de responsabilité, vous êtes en train de décider, il est responsable pour ses actes, pour qu'il soit la victime d'un attentat. Non, je ne vais pas venir sur ça, parce que c'est trop facile.
Mais je vous rappelle quand même qu'en 2017, à Charlottesville, en Virginie, il y avait eu une manifestation de l'extrême droite, une contre-manifestation, il y avait eu une opposante aux républicains qui avait été tuée. Et Donald Trump avait dit que le tort était partagé entre les deux camps, qu'il ne fallait blâmer aucun camp. Est-ce qu'avec ce genre de propos, on ne nourrit pas le climat de violence aux États-Unis?
Je pense qu'aujourd'hui, vous essayez de donner une hiérarchie des questions sur les rhétoriques et par rapport aux autres. Aujourd'hui, qui a subi la tentative d'assassinat aujourd'hui? Et vous essayez d'inverser les choses. Je pense que quelque part, si demain, il y a toutes les institutions sont à l'encontre de M. Trump, excuse-moi, on le voit que M. Biden, avec son administration, a instrumentalisé la justice, et ça viendra, ça sortira, et on ne va pas faire tous les discours aujourd'hui.
Randy Yalos.
Il y a une enquête. Non, monsieur.
Oui, je vous écoute.
J'estime qu'on ne parle pas assez. Il y a actuellement des enquêtes au sein du Congrès qui parlent de tous ces conflits d'intérêts, toutes les difficultés et toutes les problématiques par rapport au procureur, par rapport à toutes les différentes procédures qui sont menées à l'encontre de M. Trump. On parle très peu et on sort très peu des différentes informations qu'on sort. Aujourd'hui, on va essayer de passer à autre chose parce que je pense que M. Trump dit que les limites, je pense, et que ce qui est le problème, c'est que
Randy Yalos, vous défendez le droit du port d'armes pour se défendre. L'AR-15 utilisée, le fusil utilisé par le tireur samedi, c'est l'arme que les républicains défendent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur ce point?
C'est la position qui est adaptée depuis deux siècles et demi. C'est la position des républicains, c'est le deuxième amendement. C'est une position classique des républicains et ça a été prévu dans la Constitution. La question aujourd'hui, vous savez, c'est une arme qui a été achetée avec licitement et aussi aujourd'hui, on peut acheter une arme en France si on a un certificat médical, on fait une demande et qu'on n'a pas un casier judiciaire, on peut acheter une arme ici en France. Donc ça ne change rien.
Donc pour vous, ça ne remet absolument pas. D'accord, pour vous, ça ne remet absolument pas en question ce sujet-là. Cette convention, autre sujet, cette convention, l'un des moments très importants, c'est la nomination du colistier, celui qui occupera le poste de vice-président si Trump est élu. Randy Yalos, quel doit être le profil selon vous de ce vice-président? Est-ce que vous avez un favori, vous, parmi les noms qui circulent?
Un favori? Moi, je pense qu'il va choisir quelqu'un. Honnêtement, moi, je pense qu'il avait déjà quelques personnes en tête avant samedi. Et après samedi, il a dû choisir quelqu'un qui a dû être une personnalité fort pragmatique, qui, en un moment de crise, qui pouvait les soutenir. Je comprends qu'on parle de M. Vince en tant que favori. Je pense que c'est un combattant. Je pense qu'il y a une forte personnalité. Je pense que ça peut être un très bon choix comme d'autres personnes. Et ce qui est très intéressant, je pense qu'il va réfléchir à ce genre de situation. C'est quelqu'un qui peut gérer une crise parce que entre gérer la crise avec tous les procès et entre samedi où M. Trump a presque perdu sa vie, je pense qu'il y aura quand même un changement dans son état d'esprit.
Et en même temps, J.D. Vance, donc je rappelle, est élu de l'Ohio hein, pour nos auditeurs ce week-end, a alimenté ce discours d'un Joe Biden responsable de la tentative d'assassinat. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec l'appel à l'unité lancé par Donald Trump ? Est-ce que ça ne disqualifie pas J.D. Vance ?
Monsieur Vance,
il nous reste 30 secondes environ.
Ok, Monsieur Vance est en colère comme nous tous, que Monsieur Biden, il y a 6 jours, a dit que la tête de Monsieur que Trump devrait être mise au centre d'une cible. Excuse-moi, c'est le langage qu'il a dit. Et 6 jours après, il était au centre d'une cible et après a perdu sa tête. Ils ont tiré un balle dans son oreille. Donc aujourd'hui, il parle figurativement. Donc il parle que Monsieur Trump peut devenir un cible de demain. Donc on ne peut pas avoir ce genre de discours quand on est président des États-Unis. Entre-temps, Monsieur Biden a supprimé ce tweet. Donc vous voyez qu'il y a un sentiment que oui, il avait un tort. Ce petit tweet a été supprimé par la Maison Blanche. Donc il y a un vrai problème au niveau du discours. Il a appelé
Joe Biden,
d'abord à la
Joe Biden a également appelé à l'unité des États-Unis. Je vous remercie beaucoup pour votre parole, Randy Yalos. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Okay, merci.
Vous étiez en direct de la convention de Milwaukee. Je rappelle que vous êtes représentant des Republicans Overseas en France. Marine Lebeg nous a rejoint pour la revue de presse. Marine, de votre côté, vous avez feuilleté la presse américaine qui s'intéresse notamment au camp démocrate. Cette tentative d'assassinat a évidemment un impact sur la campagne de Joe Biden.
Oui, Victorien, d'autant plus que la campagne de Joe Biden prenait l'eau ces derniers temps après un débat raté contre Donald Trump. Mais depuis la fusillade, les difficultés du président sont passées au second plan, assure le média Axios. Plusieurs démocrates interrogés sont clairs. Ce n'est pas le moment de se livrer à des batailles internes. Même les plus critiques envers Joe Biden se tiennent au silence. Ce serait antipatriotique, se justifie l'un d'entre eux, de consacrer les prochains jours à autre chose qu'à cette tragédie nationale. Une bouffée d'air pour Joe Biden et un peu de calme avant la tempête qui s'annonce lors de la convention démocrate le mois prochain. Mais ce calme peut aussi simplement signifier l'abandon. Nous nous sommes tous résignés à une deuxième présidence de Donald Trump, déclare un haut responsable de la Chambre des représentants.
La presse, Marine, qui est d'ailleurs dans le viseur des Républicains.
Aucun doute du côté des partisans de Donald Trump, tout est de la faute des médias. C'est eux qui auraient créé une atmosphère de violence inévitable. Le New York Times en fait son édito et revient notamment sur la une du mois de juin du journal The New Republic. On y voit le visage de Donald Trump avec une moustache rappelant celle d'Adolf Hitler et le titre « Fascisme américain en caractère rouge dont l'esthétique rappelle celle du Troisième Reich ». Cette une avait mis en colère bon nombre de Républicains. Mais il ne faut pas oublier, rappelle l'édito, que la violence a toujours été le langage de Donald Trump. Et au-delà de chercher qui est à blâmer, le plus urgent, pense le journal, reste de trouver un moyen de sortir de cette folie.
Merci beaucoup Marine, vous restez avec nous.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
En football, après la victoire de l'Espagne à l'Euro ce dimanche soir, l'Argentine a imité la Roja la nuit dernière en remportant la Copa América. Finale retardée d'1h22, on en reparlera en raison d'incidents autour du stade de Miami en Floride. L'Argentine s'est imposée face à la Colombie 1-0 après prolongation, après être passé par toutes les émotions, Victor Misistrano.
Vamos Argentina, suelta Paredes, Lo Celso, el Toro, anda. Toro, gol, 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 gol.
Il y a de quoi se casser la voix quand à la 112e minute, l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, brise le verrou colombien d'une frappe croisée, bien servie dans la profondeur par un autre remplaçant, Giovanni Lo Celso. Debout, à côté du banc de touche, Lionel Messi lève les bras, il étreint membre du staff et coéquipier venu rejoindre leur capitaine. Une petite heure plus tôt, l'octuple ballon d'or pleurait à chaudes larmes, sorti sur blessure, le visage démoralisé et la cheville droite très enflée. Dominé durant la première heure de jeu, les les Argentins ont fait le dos rond et fini par trouver la faille sans leur numéro 10. On l'a fait pour lui, a déclaré Angel Di Maria, très ému lui aussi pour son tout dernier match en sélection à 36 ans. Lionel Messi, un an de plus, n'a lui pas exclu de continuer jusqu'au Mondial 2026. Il doit d'abord soigner sa cheville et célébrer cette 16e Copa América, la deuxième consécutive pour l'Argentine.
Merci beaucoup Victor Misistrano. Et avec ce 16e sacre, l'Argentine dépasse l'Uruguay en tête du palmarès de la Copa América. Un match, Marine Le Bègue, qui a commencé avec une heure et demie de retard, raconte la presse argentine.
Ouais, les supporters colombiens notamment étaient nombreux, trop nombreux, à être venus encourager leur équipe au Hard Rock Stadium de Miami où se tenait le match. Beaucoup de vidéos circulent sur le réseau social X. On y voit les supporters colombiens, reconnaissables à leur maillot jaune, s'attrouper devant le stade et forcer l'entrée. Des milliers de personnes étaient massées contre les tourniquets, raconte l'envoyé spécial du journal argentin La Nación. Une bousculade a permis à des centaines de fans d'entrer sans billets. D'autres vidéos les montrent escalader les grillages ou même s'introduire à quatre pattes dans les conduits d'aération pour accéder directement aux tribunes. Résultat, l'organisation du tournoi et les agents de sécurité se sont retrouvés complètement dépassés. On les voit plaquer brutalement les supporters au sol avant de les faire sortir et de fermer les portes, ce qui explique le retard du coup d'envoi.
Marine Le Bègue pour la revue de presse. Merci beaucoup Marine.
Le journal de l'Outre-mer.
Et tout de suite, le journal des Outre-mer, effectivement, avec Odan Agiali. Et à la une, la saison cyclonique 2024 s'annonce encore plus active que l'an dernier.
Oui, après le passage dévastateur dans la Caraïbe de Beryl, ouragan de catégorie 5, c'était au début du mois. Et après de nouvelles estimations, les spécialistes de l'Université du Colorado viennent de revoir leurs prévisions pour cette saison cyclonique. Plus de phénomènes, des phénomènes plus intenses. Saison qui s'annonce donc encore plus active que prévu, Colette Bordeaux.
Il fait encore très chaud sous nos latitudes et ce n'est pas de bon augure en cette saison cyclonique. L'Université du Colorado vient d'ailleurs de revoir légèrement à la hausse les prévisions pour cette période qui était cette année considérée déjà comme au-dessus de la moyenne en termes d'activité. Ainsi, de 23 tempêtes nommées au total, annoncées en avril dernier, nous passons à 25, de 11 ouragans à 12 et de 5 majeurs à 6, lesquels pourraient atteindre ou dépasser la catégorie 3. Et c'est en effet en raison notamment de ces températures élevées dans l'Atlantique et en mer des Caraïbes que cette révision s'est imposée. Depuis le 1er juin, ce sont trois phénomènes, Alberto, Cris et Beryl, le plus ravageur, qui ont fait parler d'eux dans la région. À titre de comparaison, la saison cyclonique 2023 avait été, selon les experts, la quatrième plus intense de l'histoire depuis que les données sont enregistrées, avec 20 tempêtes nommées, moins que cette année.
Les précisions de Colette Borda de Guadeloupe la première. Et c'est devenu l'événement sportif de l'année sur le territoire. Top départ aujourd'hui du Tour de Martinique en yole ronde. Les yoles, ces embarcations en bois massif utilisées à l'origine par les pêcheurs de l'île, aujourd'hui classées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors pour cette 38e édition qui se tient jusqu'à dimanche, 16 équipages vont s'élancer depuis la commune du Robert d'ici une trentaine de minutes. Et cette année encore, la préfecture de Martinique a mis en place un important dispositif de sécurité. Paul-François Chira, directeur de cabinet du préfet avec Xavier Chevalier.
L'État engage des moyens importants en matière de sécurité du Tour des Yoles pour faire en sorte que cet événement soit un vrai succès, un succès populaire, un succès festif, un succès sportif, et qu'il n'y ait aucun débordement qui vienne ternir les festivités. Donc on a mis en place un dispositif de sécurité à terre, avec chaque jour à peu près, sur chaque ville-étape, à peu près 200 gendarmes qui sont mobilisés, avec en plus tout ce que les communes préparent et mettent à disposition des agents de sécurité privés, des bénévoles, des policiers municipaux. Donc c'est un nombre conséquent de forces de l'ordre qui seront mobilisées. Et puis sur mer, nous aurons en permanence 4 à 5 navires, dont ce qu'on appelle un moyen lourd, qui est un navire maison, si je puis dire, autour desquels s'agglomèrent les autres navires, se ravitaillent les autres navires. Et donc chaque jour, à chaque étape, y compris après la manifestation nautique, il y aura des moyens maritimes avec des gendarmes maritimes, des douaniers, des marins de la marine nationale, des gendarmes nationaux de la brigade nautique, bref, tout. Et puis bien sûr les affaires maritimes qui, elles, assurent la police de la manifestation.
La première journée du Tour des Yoles de Martinique avec une vigilance jaune pour fortes pluies et orages de Météo France. Vigilance qui concerne plutôt la côte Caraïbe, donc à l'opposé du lieu du départ de la course. Ouf. Bonne journée, Victorien.
Bonne journée à vous, Oda Najiali. Merci beaucoup et RFI Midi. C'est terminé. Merci à Vincent Biteau et Mathieu Badre d'avoir réalisé cette émission, à la rédaction en chef Véronique Rigolet. RFI Midi revient dès demain, 11h, temps universel. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI, la sélection du mois.
L'As avec David Walters. Tu me manques. Agachou avec Juju Boy. You go give me peace of mind. No for see me in person. You go to see my face online. Down to the left, to the right. If I'm inside, make you leave, I'm inside. No go do inside, so you won't put time inside. Shayo. RFI Musique. Autour de la question à Madagascar. Caroline Lachowski.
Regard croisé de scientifiques malgaches sur l'extraordinaire diversité des écosystèmes de l'île Rouge. Comment préserver ses forêts sèches, humides ou montagneuses et ses mangroves vues du ciel par satellite ou depuis l'océan au Festival des baleines. Comment la recherche s'engage à Madagascar.
Autour de la question avec Caroline Lachowski, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.